RTN Info. Stéphanie Wenker.
Lors des votations fédérales de ce dimanche, le peuple suisse a refusé les deux initiatives phytosanitaires et la loi sur le CO2. Il a en revanche accepté la loi Covid et celle pour lutter contre le terrorisme. Neuchâtel a voté comme le reste du pays, mis à part la loi sur le CO2 qui passe la rampe. Dans la région, il n'y aura pas de hausse d'impôts à Val-de-Ruz. Le peuple a refusé en votation populaire une augmentation du coefficient de 2 points par 64% des voix. La commune va devoir trouver un équilibre dans les prestations et les investissements. Le réaménagement du Clos de Serrières a passé la rampe. La population de la ville de Neuchâtel a accepté à 63% le crédit de 3,5 millions de francs. Les référendaires avaient placé la suppression des places de parc dans le quartier au centre du débat, un thème qui n'a finalement pas eu d'impact. Et météo estivale au programme de ce soir et des prochains jours avec des températures qui resteront chaudes. Menu copieux mais indigeste pour les écologistes. Ce dimanche, le peuple suisse s'est prononcé sur 5 objets. Il a refusé les deux initiatives phytosanitaires et la loi sur le CO2. Il a en revanche accepté la loi Covid et celle pour lutter contre le terrorisme. Neuchâtel a voté comme le reste du pays, mis à part la loi sur le CO2 qui passe la rampe à plus de 52% des voix. C'est non à 51,6% au niveau suisse, Sarah Massy.
Oui, et pour en parler, nous recevons dans nos studios à Marin deux élus neuchâtelois à Berne, la conseillère aux états verts Céline Vara, qui s'est engagée en faveur des deux initiatives sur l'eau, les pesticides, et Philippe Bauer, conseiller aux états libéral radical. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Le résultat qui marque ce dimanche, c'est le rejet de la loi sur le CO2, un assortiment de mesures et de taxes incitées qui devaient permettre de contenir le réchauffement climatique, des taxes dont le peuple ne veut pas.
Et avant de vous entendre tous les deux sur cet objet, je vous propose de nous rendre du côté du camp des vainqueurs. Seul ou presque contre tous, avec l'appui des lobbies pétroliers et automobiles, l'UDC a su s'adresser aux porte-monnaies de la population, rurale en particulier. Ce n'est pas un non au réchauffement climatique, mais plutôt aux outils pour la ralentir. Écoutez donc le conseiller national UDC fribourgeois, Pierre-André Page.
C'est un non à ces nouvelles taxes pour une catégorie de la population qui ne les voulait pas. C'est un non à aller beaucoup trop loin par rapport aux autres pays en environnement. Et puis c'est vraiment un non car la population fait déjà des mesures. On est déjà un pays qui a des taxes sur le CO2. Donc finalement, la population ne veut pas être surchargée alors que partout ailleurs, on ne le fait pas encore. Donc on allait beaucoup trop vite avec cette loi. La conscience, elle est là. Je suis convaincu qu'on est toujours conscient de ce réchauffement climatique. Mais ce n'est pas avec des taxes qu'on va diminuer le réchauffement climatique. Et ça, la population l'a très bien compris.
Philippe Bauer, comment arriver justement à trouver un compromis ? Qu'est-ce que vous n'avez pas su expliquer lors de cette votation ?
Oui, je crois que ce dimanche, vous l'avez relevé, il y a un problème avec la loi sur le CO2, mais malgré tout, il y a un succès avec les deux initiatives phytosanitaires.
Pour vous ?
Et pour moi, c'est aussi un week-end où il y a une sévère défaite des Verts qui perdent finalement à 4 occasions. Maintenant, par rapport à la loi CO2, qu'effectivement je soutenais, peut-être que nous n'avons pas suffisamment réussi à expliquer que c'était l'application du principe pollueur-payeur, qui est quelque chose qui est cher aux esprits libéraux. Peut-être qu'on n'a pas non plus réussi à suffisamment expliquer que ces taxes ne seraient pas simplement utilisées dans le fonctionnement général de l'administration, comme on en a l'habitude, mais qu'elles seraient pour l'essentiel redistribuées.
Céline Vara, est-ce que finalement la population aujourd'hui, elle n'assimile pas écologie et taxes ?
Bon, je crois que le constat aujourd'hui, c'est que la Suisse, en tant que pays alpin, est particulièrement touchée par les changements climatiques. Selon l'Office fédéral de la météorologie et de la climatologie et de Météo Suisse, le pays se réchauffe en effet deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Et ça, c'est un constat sur lequel on était tous d'accord. Force est de constater que sur les moyens pour lutter contre ce réchauffement climatique, là, nous ne sommes pas d'accord. Et comme vous l'avez mentionné en introduction, aujourd'hui, visiblement, c'est vraiment le lobby pétrolier et le lobby automobile qui a gagné. Et effectivement, c'est particulièrement triste.
Céline Vara, la campagne s'est beaucoup focalisée, Philippe Bauer l'a dit, sur les initiatives sur l'eau et sur les pesticides de synthèse. Des textes qui ont été qualifiés par les opposants d'extrêmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que peut-être ça a braqué la population et qu'une partie de l'électorat a voté du coup également contre l'initiative sur la loi sur le CO2 ?
Alors, les électeurs et électrices des Verts se sont fortement mobilisés, mais aujourd'hui, les Verts ne pèsent que 20% hein, de l'électorat. Et tant que nous ne serons pas majoritaires dans ce Parlement et dans les cantons, eh bien, il sera très compliqué de faire passer des objets, puisque, effectivement, c'est une question mathématique. Hein. Aujourd'hui, les Verts perdent parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et puis, pour savoir s'il y a eu un rapprochement et donc un vote de rejet global, on a vu beaucoup passer ces 5 fois non. Hein. Il y a eu aussi la loi Covid qui a été vraiment très, très, très débattue. Et je pense qu'effectivement, face à une multitude d'objets et pourtant d'importance, à mon avis, là, c'est une erreur stratégique du Conseil fédéral, hein, également, de les avoir mis ensemble. Eh bien, il y a certaines personnes qui se sont dit, voilà, pour moi, c'est trop. Ils se sont mis dans une attitude de rejet et surtout au sortir d'une crise où tout le monde a été particulièrement malmené.
Vous pensez que peut-être si les objets avaient été pas mis ensemble, on aboutirait à un autre résultat ?
Écoutez, alors moi je ne suis pas Irma avec sa boule de cristal, mais disons, ce qui est certain, c'est que par exemple les deux initiatives pesticides étaient très différentes les unes des autres, et lorsqu'on discutait encore hier matin au marché avec les gens, eh bien peu arrivaient à faire la différence. Et pourtant, hein, et pourtant, on ne parlait vraiment pas de la même chose. Et puis pour la loi sur le CO2, ça a été aussi dit avant votre introduction, eh bien, malgré le fait que cette loi était portée et conçue par une majorité bourgeoise du Parlement, eh bien, elle n'a pas convaincu. Et force est de constater, malheureusement, qu'effectivement, avec un discours un peu compliqué, hein, on est pour le climat, mais pas pour la biodiversité, eh bien, les électeurs du centre et de la droite ne se sont pas mobilisés pour cette loi sur CO2, et c'est vraiment dommage.
Philippe Bauer, on sait que le changement climatique, ça reste toujours un point aujourd'hui qui est très important. On l'a encore vu avec les pays du G7 qui se sont engagés pour augmenter leur contribution pour financer la lutte contre le changement climatique. Est-ce que tout cet engouement, c'est une bonne chose pour la Suisse ? Ça montre l'exemple ?
Mais je crois que le problème est réel. Le problème est admis par l'ensemble du Parlement ou le quasi-ensemble du Parlement. Simplement, aujourd'hui, avec le débat qui a été mené par les Verts sur les initiatives, on est arrivé effectivement à un amalgame entre l'élément sanitaire, l'élément phytosanitaire et cette loi sur le CO2. Et il y a eu un rejet général de ces thèses-là. Ce que je regrette vraiment, parce que j'imagine mal comment on pourra faire une loi meilleure et comment on pourra faire une loi qui sera acceptée par la majorité, parce que je remercie Céline Vara de l'avoir dit, heureusement pour l'instant. La majorité est quand même une majorité de droite dans ce pays.
Contrairement au précédent objet, vous n'étiez pas du même avis concernant les deux initiatives. On en a déjà parlé, hein, des textes qui ont été refusés par la majorité des cantons et près de 61% de la population. Céline Vara, la campagne a été très très dure, hein, avec des attaques personnelles. Comment est-ce qu'on explique ce climat qu'on finalement ne connaissait pas en Suisse ?
C'est juste, mais je crois que cette campagne a été aussi formidable au plus haut point, dans le sens où on a mis en avant des thématiques dont qu'on n'abordait pas du tout avant. On n'a jamais autant parlé de biodiversité, on n'a jamais parlé autant de liens avec notre santé, la santé de nos enfants. Et ça, c'est extrêmement positif. On a parlé de ces initiatives dans le monde entier. Ça a permis de mobiliser les gens qui travaillent avec la nature, les pêcheurs, les apiculteurs, mais aussi les consommateurs. Et je pense que cette réflexion, peu importe le bord politique, elle est fondamentale. Parce que lorsque on fait de la politique, mais lorsqu'on a des enfants aussi, puis qu'on imagine un avenir pour eux, eh bien, l'un et l'autre sont, à mon avis, indissociables. Et moi, je pense que cette campagne, eh bien, elle a touché les gens au plus haut point, parce qu'on parle de leur santé, on parle de ce qu'ils mangent, et puis évidemment que ben voilà, ça peut créer des tensions, oui.
Philippe Bauer, les textes ont été refusés un peu plus de 61%. Il y a quand même 40% de la population qui était pour. Comment aller de l'avant maintenant ? On va devoir tenir compte de ces 40%.
Mais je crois que le principe d'abord de la majorité et de la minorité, c'est que quand un sujet a été tranché, il a été tranché. Et on ne peut pas toujours revenir en disant, puisqu'il y avait une minorité qui s'intéressait au sujet, qui se sentait particulièrement concernée par le texte des initiatives, qu'il s'agit aujourd'hui d'y revenir. Le Parlement avait déjà fait son travail. Là, il y a eu des modifications de loi en la matière. Il y a des délais qui ont été posés. Il y a un processus processus qui est mis en place, qui est mis en œuvre sur l'évaluation des différents pesticides. Et ces éléments-là doivent se poursuivre parce que ces initiatives étaient malheureusement extrêmes. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas trouvé grâce aux yeux, malgré tout, de 22 cantons et demi sur 23, puisque à part Bâleville, tous les cantons ont eu exactement le même réflexe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, que ça soit des cantons urbains ou que ça soit des cantons un peu plus campagnards, on voit le résultat est identique partout, que ça soit à Zoug ou à Fribourg.
Céline Vara, vous avez vraiment fait partie des fers de lance de cette campagne. Est-ce que le combat, maintenant, il doit continuer ?
Bon, l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, ce sont des Neuchâtelois qui l'ont lancée. C'est parti de notre canton, canton de Neuchâtel magnifique, qui a le plus haut taux de viticulteurs bio, qui a un excellent taux d'agriculteurs bio et chaque jour davantage de ces agriculteurs qui se dirigent vers l'agriculture biologique. Et donc, ce n'était pas étonnant que je sois engagée dans cette campagne, bien sûr, aux côtés de tous ces gens qui ont donné tellement de temps pour cette cause. Et je pense que ce qui est clair, et je crois que Phil Bauer a raison sur ce point, une défaite reste une défaite. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on va régler les problèmes, puisqu'ils sont là, et ça, on ne peut pas les ignorer. L'eau est massivement polluée. Dans le canton de Fribourg, par exemple, c'est 75% de l'eau de source qui est polluée. C'est gravissime. Ces pesticides de synthèse, qui sont hautement toxiques, se retrouvent absolument partout, jusque dans le cerveau de nos enfants, a dit l'Université de Neuchâtel et l'hôpital neuchâtelois. Et maintenant, il faut trouver des solutions pour faire face à ce problème-là. Et là, j'attends vraiment maintenant ceux qui ont gagné d'apporter des solutions, parce que jusqu'à aujourd'hui, au Parlement, nous n'avons jamais pu aborder cette question. Toutes les propositions ont été refusées en bloc.
Des solutions.
C'est pas vrai. Toutes les propositions n'ont pas été refusées en bloc, puisque finalement, il y avait un contre-projet indirect. Parce que si refuser une proposition venant des Verts, c'est refuser tout le débat sur le sujet, non, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises, que ce soit par la Confédération, que ce soit dans le canton de Neuchâtel aussi. Il y a le plan phytosanitaire du Conseil d'État qui prévoit une quinzaine de mesures qui vont être prises, qui vont être mise en œuvre maintenant. Le problème est un problème qui existe et il s'agit de le régler avec les outils qu'on connaît.
Problème qui existe, Philip Bauer l'a dit. Céline Vara, on vous a senti pas agacée, mais peut-être irritée par les propos.
Oui, parce que c'est faux, c'est pas les Verts qui ont lancé cette initiative, je rappelle. Donc c'est des gens, c'est monsieur et madame tout le monde, qui ont d'ailleurs des bords politiques plutôt à droite, soit dit en passant. Et puis moi, j'ai assisté au débat au Parlement sur ce soi-disant contre-projet indirect, qui n'est pas un contre-projet, qui est une option molle qui va être difficile de mettre en œuvre. Je rappelle quand même que les trois précédents plans phytosanitaires de la Confédération n'ont jamais abouti. Je rappelle que dans la politique agricole, les 13 objectifs environnementaux qui ont été mis n'ont jamais été réalisés, on n'en a atteint aucun. Donc aujourd'hui, on voit bien vraiment que la politique fédérale dans le domaine des pesticides, c'est un véritable fiasco. Moi, j'attends de la Confédération et des cantons des mesures à la hauteur de la catastrophe qui nous guette. 75% de la biodiversité a déjà disparu dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est demain, on ne sait pas ce qui restera. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes, c'est les scientifiques, c'est toutes les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Et je le regrette parce qu'aujourd'hui, il y a un déni vraiment de cette situation-là. Et si on ne met pas les mesures nécessaires, et c'est comme le climat, eh bien, on va droit dans le mur. Et je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de dire qu'on accepte cette éventualité-là.
Oui, mais 61% de la population ne vous a pas suivi.
On va passer
à la suite avec la loi sur les mesures policières contre le terrorisme qui a passé la rampe. Aujourd'hui, à près de 57% des voix, c'est un autre objet sur lequel tous les deux, vous n'étiez pas d'accord. Céline Vara, d'abord, la gauche craint des débordements. Les Verts vont d'ailleurs déposer la semaine prochaine une initiative parlementaire pour avoir une définition précise du mot terrorisme. Qu'est-ce qui vous inquiète finalement dans cette loi ?
Bon, je crois que comme toujours, en fait, dans ces lois qui sont répressives, il y a toujours une peur du débordement. On est dans un pays démocratique et effectivement, on a peur que ces outils soient utilisés à mauvais escient ou bien effectivement que ça touche des personnes qui ne devraient pas être inquiétées normalement. C'est une peur que je peux comprendre. C'est une loi sur laquelle j'étais assez mitigée parce qu'il y a des éléments de fond qui me pose un problème. Le fait qu'on puisse enfermer, mettre en prison un enfant de 12 ans, pour moi, ça, c'est vraiment très problématique. Hein. Ça va à l'encontre de plusieurs conventions que la Suisse a signées en matière de droits de l'homme. Et de ce point de vue-là, effectivement, voilà, c'est inquiétant. Maintenant, il faut espérer que cette loi soit mise en œuvre correctement. J'ai confiance. J'espère que ça va bien se passer. Et puis que dans 10 ans, on se retournera en disant, bah voilà, cette loi sur le terrorisme, elle a été appliquée comme elle devait l'être, avec toute la retenue et la justesse qu'on attend des autorités.
Justement, Philippe Bauer, une mise en œuvre correcte, comment vous pouvez assurer qu'il n'y aura pas de débordement ?
Alors, je crois que c'est effectivement peut-être le sujet où nous étions le plus proche avec Céline Vara. J'ai eu pendant le débat parlementaire les mêmes craintes. Néanmoins, je crois que la manière dont la loi est rédigée, avec le recours aux tribunaux des mesures de contrainte, par exemple, en matière d'assignation à domicile, devrait faire taire une partie des craintes. Mais je pense que la meilleure manière sera que notre police, nos autorités pénales, et dans ce domaine aussi, la prudence qui s'impose, la réserve qui s'impose, comme on le connaît aussi, par exemple, en matière de lutte contre le hooliganisme, parce qu'on a à peu près les mêmes mesures, certes de manière un peu étendue dans la durée, mais on a à peu près les mêmes mesures et on a le sentiment que le système fonctionne pas si mal. Et je crois aussi que j'attends de la part des tribunaux qui pourraient être saisis avant ou après après que des mesures aient été prises, qu'ils fassent preuve de la proportionnalité nécessaire, qu'ils fassent preuve de la réserve nécessaire et que ce soit une loi qui ne soit jamais appliquée. Ce serait mon rêve finalement, parce que ça signifie que dans notre pays, on arrive à en partie vaincre ce fléau qu'est le terrorisme.
On termine par un objet sur lequel vous étiez d'accord, la loi Covid. Un objet qui a été approuvé par 60% de la population suisse, qui était combattu par les Amis de la Constitution, un mouvement qui s'est constitué l'été dernier pour s'opposer au reste restriction des droits fondamentaux lors de la lutte contre le terrorisme, la pandémie. On n'est plus dans le terrorisme. Ces Amis de la Constitution comptent désormais plus de 10 000 membres. Alors, est-ce qu'ils ont mené un combat pour rien? Est-ce qu'ils vont revenir à la charge? On écoute leur coprésident Werner Böxler.
Notre combat est de toute façon gagnant, d'une part parce que nous avons pu mettre ensemble une partie de la population qui est mécontente de cette évolution et surtout de la privation des droits fondamentaux.
Cette loi Covid, elle a été modifiée parce que vous allez relancer un nouveau référendum.
Le référendum 2 est déjà dans les starting blocks contre le certificat vaccinal. Donc il y a plusieurs articles que nous allons combattre par un nouveau référendum. Nous aimerions maintenant nous engager par une initiative aussi pour améliorer toujours les droits fondamentaux et aussi permettre au peuple de s'exprimer plus facilement par rapport à ce qui se passe à Berne.
Philippe Bauer, on vient de l'entendre, les Amis de la Constitution veulent lancer un deuxième référendum. Quelle est votre réaction ?
Alors tout d'abord, Amis de la Constitution, je le suis aussi, puisque c'est vraisemblablement, je suis un vieux légaliste et très souvent je traîne ma Constitution avec moi. Maintenant, un nouveau référendum... C'est un droit populaire qui est garanti et comme Ami de la Constitution, je ne peux que me réjouir lorsqu'il est utilisé. Mais la Constitution postule aussi quand même qu'on a affaire à des gens intelligents et des gens qui comprennent les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la défaite du mauvais côté des Amis de la Constitution, pour moi, c'est difficilement compréhensible et difficilement acceptable de repartir pour un tour. Et ce surtout que les mesures qui sont prises cette fois sont essentiellement des mesures qui visent à libéraliser les choses.
Une question pour vous, Céline Vara. On parlait des fronts qui se durcissent. Hein. Est-ce qu'on a l'impression que les personnes, finalement, n'arrivent plus à entendre la voix de l'autre? Est-ce que ça, ce n'est pas une démonstration?
Bon, je crois que quand on parle de restriction des droits fondamentaux, fort heureusement que les gens s'inquiètent et puis réagissent parce qu'on touche au plus fondamental, comme le terme l'indique, de nos droits et de nos libertés. C'est pourquoi, effectivement, quand on s'est retrouvé à devoir porter des masques, à ne plus pouvoir aller dans les bus sans les masques, par exemple, ou bien avoir d'autres mesures très contraignantes, eh bien, évidemment, un certain nombre de personnes se sont inquiétées de ces restrictions-là. Mais dans notre pays, on a une démocratie directe qui est ce week-end a démontré qu'elle fonctionnait. Et le Parlement a été élu par cette démocratie directe et a fait un travail, je dois dire, d'une minutie exemplaire sur cette loi. Et je pense vraiment que, vu les forces en présence au Parlement, ces libertés fondamentales ont été âprement discutées, âprement débattues. Et à chaque fois, nous avons essayé de trouver le juste équilibre pour attenter le moins possible à ces libertés, mais préserver, disons, la sécurité sanitaire et préserver le plus grand nombre de tous. C'est pourquoi moi, je suis quand même contente que cette loi ait été adoptée. Mais il faudra être vigilant par la suite qu'effectivement, tout le monde puisse être entendu et que les outils démocratiques, comme l'a dit Philippe Bauer, soient utilisés correctement.
Céline Vara, Philippe Bauer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci d'avoir accepté notre invitation. Belle suite de soirée à tous les deux.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Et puis, on votait encore sur le plan communal, c'est non d'ailleurs pour la deuxième fois. Du côté de Val-de-Rue, la population a refusé ce dimanche en votation populaire une hausse d'impôt du coefficient fiscal de 2 points, de 66 à 68. Le non se monte à plus de 64% des voix. Le peuple avait d'ailleurs déjà refusé une hausse d'impôt en 2018. Pour les autorités communales, deux facteurs ont pesé sur le vote. Les incertitudes liées à la crise sanitaire et le résultat exceptionnellement équilibré des comptes 2020. Reste que ce refus va peser sur les investissements. Yvan Rizère, conseiller communal en charge des finances.
Les investissements, c'est d'une part une obligation qui est ordonnée, on peut le dire, par les lois qui sont mises en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit absolument entretenir le patrimoine existant. On parle des routes, hein, par exemple. Là, il y a des investissements sur lesquels on ne peut pas du tout faire une croix ou un ralentissement. Mais disons, dans l'ensemble, il faut quand même garder à l'esprit que notre plan de législature, à long terme, vise des investissements qui sont liés à favoriser l'emploi à Val-de-Rue, à favoriser les mobilités, à favoriser les énergies. C'est clair que là, on a trois axes prioritaires sur lesquels on va tâcher de tenir le cap. Et puis, il y a peut-être d'autres investissements qui ne rentrent pas dans ces trois axes prioritaires qui, eux, seront probablement ralentis ou différés, tout simplement.
Pour le conseil communal, ce refus provoque le manque d'1 million de francs dans la caisse communale avec des incidences évidentes. Un argument qui laisse de marbre Jean-Dominique Cornu, membre du comité référendaire.
Aux chiffres, on peut faire dire ce que l'on veut. Je pense qu'il y a des priorités, il y a des choses qu'on doit momentanément laisser tomber, il y a des choses que, quel que soit ce million, il y en aura d'autres. Parce que le COVID qui continue est malheureusement... les retombées de l'industrie qui ne seront pas si florissantes que les journalistes nous racontent vont peser lourd. Alors, il y a des priorités que notre conseil communal doit respecter. Et une chose très importante, notre conseil communal doit accepter un audit. Parce que depuis le début de la fusion, on a en place des gens qu'on a conservés avec respect, mais qui ne sont pas en bonne place, qui n'ont pas les compétences de leur poste, et qui n'ont pas les qualités et la qualification. Et les nouveaux élus politiques en sont à la même.
Le taux de participation s'est monté à 53%. À Neuchâtel, le clos de Serrières sera réaménagé. Les citoyens ont accepté à plus de 63% le crédit d'un montant de plus de 3,5 millions de francs. Ce résultat réjouit évidemment Violaine Blétry de Montmelin, conseillère communale en charge du Dicaster du développement territorial.
Le côté communal, évidemment, est très réjoui aujourd'hui de cette acceptation très nette de la population. On se réjouit surtout pour la population de Serrières de pouvoir maintenant réaliser ce projet qui va apporter la qualité de vie et la sécurité nécessaire à ses habitants qui le méritent.
Qu'est-ce qui a convaincu, selon vous, la population de Neuchâtel?
Je crois que la démarche participative, la consultation, la communication, malgré ce qu'on a pu lire ou entendre, a été bonne. Je crois que ce projet a séduit bon nombre des électeurs, vu quand même 63% c'est net. Les gens comprennent que l'on a envie de redonner de la vie dans les quartiers. On vient de vivre aussi une période Covid, un petit peu de repli sur soi qui était compliqué. Et notre conseil communal a vraiment envie d'amener de nouveau cette vie, cette économie de proximité, cette sécurité dans les quartiers et cette mixité sociale quelque part. Donc on se réjouit aussi pour la dynamique future de notre nouvelle commune.
Un comité citoyen référendaire s'opposait à ce projet, notamment à la suppression de 23 places de parc dans le quartier du Clos de Serrières, mais aussi à d'autres suppressions prévues en ville de Neuchâtel. Malgré ce résultat clair en leur défaveur aujourd'hui, les opposants ne se disent pas déçus. Écoutez David Erard, président du TCS.
Je ne peux pas parler d'une déception. Le résultat a l'avantage d'être très clair, avec un oui largement majoritaire. À titre personnel, je l'ai toujours dit, ce Claude Serrière était un beau projet. Ce qui nous posait problème, c'était la suppression des 23 places de parc et surtout plus généralement la suppression annoncée de 200 places de parc en ville de Neuchâtel. Notre but, c'était de sensibiliser la population à ce débat qui est beaucoup plus large. Donc, puisqu'on parle de 200 places et non de 23 dans un projet de quartier, je crois que là, on a fait une campagne qui a touché tout le monde, de telle sorte que chacun a pu voter en toute connaissance de cause. Et puis du coup, on prend acte que pour les citoyens, ou en tout cas pour une large majorité, une suppression annoncée de 200 places de parc en ville de Neuchâtel ne posera pas de problème, même sans étude ni inventaire préalable.
Le réaménagement du Claude Serrière pour redonner une place à la population et végétaliser le quartier, c'est ce qui arrive encore, avec une limitation de la vitesse qui passera de 50 à 30 km/h. Et la participation pour cet objet s'est élevée à 40%. Dans le reste de la Suisse, le canton du Jura prendra des mesures pour concrétiser l'égalité salariale entre hommes et femmes. Les citoyens ont accepté aujourd'hui à plus de 88% l'initiative du syndicat Unia Transjurane, égalité salariale, concrétisons. Le texte était soutenu par tous les partis. Et Bâle-Ville est le premier canton alémanique à introduire un salaire minimum. Les citoyens du canton ont approuvé aujourd'hui un contre-projet en ce sens. Ce salaire est fixé à 21 francs de l'heure. À l'étranger, le G7 s'unit pour une vaccination de masse et pour la protection du climat. Les grandes puissances se sont retrouvées pour la première fois en près de deux ans en Cornouailles, en Angleterre. Ces trois jours de sommet étaient les premiers pour l'administration Biden. Face aux appels à la solidarité qui se sont multipliés ces derniers mois, ils ont convenu de redistribuer 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid d'ici fin 2022. Un plan d'action pour tenter de limiter le réchauffement climatique a aussi été discuté. Les dirigeants du G7 se sont prononcés pour une réduction d'environ de moitié de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Sport.
Et une page sport avec vous, Marcel Neuenschwander, et on parle tennis.
Oui, bonsoir. Et Novak Djokovic, qui n'a pas encore gravé dans le marbre son 19e titre du Grand Chelem. Le joueur de tennis serbe est sérieusement accroché par Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Roland-Garros. Le grec a surtout remporté les deux premiers sets par 7-5, 6-2. Mais attention, le serbe a réagi. Il a enlevé la troisième manche 6-3 et il vient à l'instant d'empocher le quatrième set 6-2. Les deux joueurs entament donc maintenant la cinquième manche décisive. Coup de force de Gino Meder au Tour de Suisse cycliste, déjà troisième du contre-la-montre de la veille. Le jeune coureur saint-gallois a remporté la huitième et dernière étape de la boucle nationale. Le grimpeur helvétique a maîtrisé de main de maître le sprint face au Canadien Michael Woods. Cinquième de l'étape, l'équatorien Richard Carapaz a définitivement revêtu le maillot jaune de leader. En VTT, Mathias Flückiger tient la forme. Le Bernois a enlevé la première manche de la Coupe du monde de cross-country disputée à Leogang. En Autriche, le champion olympique Nino Schurter se contente du 10e rang. Côté féminin, Yolanda Neff a pris le 4e rang. En natation, Kylie McCaughan a battu le record du monde du 100 mètres d'eau lors des qualifications olympiques à Adelaide. L'Australienne de 19 ans a parcouru la distance en 57 secondes 45. Elle a amélioré de 12 centièmes le record détenu depuis deux ans par sa rivale américaine du même âge, en l'occurrence Regan Smith.
Le journal de l'Euro.
Avec le Lobby Bar à Neuchâtel, pour vivre intensément les meilleurs moments foot. Restauration sur réservation sur lobbybar.ch.
Et la nouvelle VVI D4 à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage.
L'Angleterre n'a pas failli à Londres devant 25 000 spectateurs dans son stade fétiche de Wembley. Elle a battu la Croatie 1-0 pour son premier match du tournoi. Une réussite signée Sterling à l'approche de l'heure de jeu. Les Anglais tiennent ainsi leur revanche sur les vice-champions du monde contre qui ils avaient justement perdu en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Les équipes du groupe C font également leur entrée en lice dans le tournoi aujourd'hui. Le match entre l'Autriche et la Macédoine du Nord a débuté à 18h. Les Autrichiens mènent déjà 1-0. Quant à la rencontre Pays de Bas-Ukraine, elle est programmée à 21h. L'équipe de Suisse, elle, se concentre déjà sur la deuxième rencontre du tournoi, mercredi soir au Stade Olympique de Rome contre l'Italie. Toutefois, les commentaires vont bon train au terme du match nul, un partout concédé hier contre le Pays de Galles. Le coaching de Vladimir Petkovic était-il le bon? La question a surtout trait à l'entrée remarquée et jugée trop tardive de Mario Gavranovic. À ce propos, l'intéressé botte en touche.
Je pense que tout le monde qui est ici il a envie d'aider l'équipe et de jouer, mais il faut rester concentré pendant le match, être prêt si l'entraîneur tout d'un coup il a besoin de toi et essayer de rentrer dans la meilleure manière possible pour aider l'équipe.
Dans la carrière d'un footballeur, Mario, affronter l'Italie à Rome dans un Euro, c'est pas mal.
qui, c'est un match spécial pour la Suisse. C'est aussi un match important. On respecte notre adversaire, mais on veut montrer notre jeu. On veut essayer de faire le meilleur jeu possible pour nous et essayer de gagner le match.
L'équipe de Suisse devra encore capitaliser des points en vue de décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale, que ce soit contre l'Italie mercredi ou encore la Turquie dimanche. Mais la rencontre face à la Squadra Azzurra dans son stade de Rome constitue toujours un moment à part, un beau challenge. Que demander de plus, clame Kevin Babou.
Peut-être pas, parce que nous on est toujours une équipe joueuse, on veut toujours avoir le ballon. Donc je me réjouis de comment ça va se passer, parce que ce sera deux équipes qui portent le ballon. Donc ça risque d'être une très belle partie pour les joueurs comme pour les téléspectateurs.
Oui, l'équipe de Suisse qui ne veut pas tout simplement subir le jeu de l'équipe transalpine Suisse-Italie, c'est donc pour mercredi soir à 21h. Le Danois Christian Eriksen se porte mieux, mais les raisons de son malaise cardiaque ne sont pas élucidées. C'est ce qu'a indiqué le médecin de la sélection scandinave aujourd'hui. Christian Eriksen s'était soudainement écroulé, les yeux révulsés lors du match Danemark-Finlande hier soir. Un massage cardiaque avait été nécessaire pour le réanimer avant son transport à l'hôpital.
Le journal de l'Euro avec l'Audi Q4 e-tron à découvrir chez Automobile Seine à Neuchâtel, Yverdon et La Chaux-de-Fonds. Automobile Seine, bien plus qu'un garage. La météo avec Meyer Garden Center à Colombier pour fleurir au mieux vos jardins, terrasses et balcons.
La soirée s'annonce très agréable. Demain encore une belle journée ensoleillée et estivale. Les températures grimperont jusqu'à 27 degrés en plaine, 25 en montagne. Le soleil sera également au rendez-vous à la suite de la semaine avec un risque orageux modéré en fin de journée. Le mercure pourra atteindre jusqu'à 31 degrés. La fin de la semaine est encore mal cernée avec une arrivée possible d'air plus instable.
La météo avec Meyer Garden Center à Colombier, votre adresse de proximité pour tout type de piscine, spa et leur entretien.